Loué et remercié soit notre Dieu pour les conduites merveilleuses, pour tout ce qu'il fait. Je voudrais aussi à notre béni frère de Bruxelles souhaiter la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, nos frères et sœurs qui viennent des pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Nous nous rassemblons pour être bénis. Alors que le frère me disait déjà hier, en français, il me racontait son témoignage en français. J'ai essayé de comprendre tout cela. Et je sais profondément dans mon cœur, il n'y a qu'un seul souhait, qu'une seule pensée, de faire les choses pour lesquelles Dieu m'a appelé. Distribuer la nourriture spirituelle, la parole révélée. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il y a même, pour ce qu'il disait, un verset biblique. Matthieu 22. Allez dans les rues, dans les coins et invitez. Faites entrer mauvais et bon. Dites-leur que tout est préparé. Venez, entrez. Et la salle s'est remplie de conviés. Ça, c'est le temps d'invitation. Qu'est-ce que j'en peux? Peut-être que je devrais ici le dire. J'ai l'intention de l'écrire encore dans la lettre circulaire. Qu'est-ce que je peux pour ça? Alors que une fois, j'étais à Edmonton, Alberta, Canada, sur l'avenue 137, il y a un frère appelé Don Doubles. Qui est venu un soir et qui me disait, frère Franck, nous recevons des lettres du monde entier, partout où tu voyages. Tu donnes cette adresse et nous envoyons d'ici les prédications en anglais. Et il était enthousiasmé, ouvertement, touché. Et subitement, il a posé la question. Et s'il vous plaît, comprenez ça bien, je ne le dis pas à cause de moi. Mais sa question était la suivante. Ton service est d'une ampleur mondiale. Et s'il est déterminé à l'Église, il faut qu'il soit quelque part à trouver dans la Bible. Et c'était une question qu'on ne m'avait jamais posée de toute ma vie. J'ai rejeté cela. J'ai refusé cela et j'ai dit, écoute mon frère, je fais que les choses pour lesquelles le Seigneur m'a appelé. Mon service n'est pas dans la Bible, mais mon service est de justement porter ce qui est écrit dans la Bible et nous a été révélé. Mon service, c'est de le porter dans le monde entier. Le prochain matin, alors que le soleil brillait dans la chambre où j'étais, j'ai entendu la voix audible du Seigneur, tel que maintenant vous entendez ma voix. Je t'ai, selon Matthieu 24, verset 45, établi pour distribuer la nourriture. Qu'est-ce que j'en peux? Est-ce que c'est moi qui ai demandé à Dieu? Est-ce que c'est moi qui ai une fois prié, chercher une expérience surnaturelle? Non, jusqu'à aujourd'hui, jamais. Pas une unique fois. Et là aussi, de toute façon, aucun homme peut avoir une influence à cela. Mais la chose merveilleuse, ou bien alors, la chose qui nous touche, toi et moi, nous tous, consiste à ce que le Seigneur, dans nos jours, comme vivant, s'est témoigné. Et que nous ne lisons pas seulement qu'il a parlé. Nous ne lisons pas seulement qu'il a agi. Nous ne lisons pas seulement qu'il a sauvé, qu'il a guéri et qu'il s'est révélé. Mais que, comme homme, aujourd'hui, nous pouvons faire les mêmes expériences avec Dieu. Cela nous témoigne que le Seigneur ressuscité est avec nous et s'occupe de nous, se soucie de nous. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui encore, il nous parle? Oui, il y a des jours particuliers aussi dans ma vie, des jours particuliers que je ne peux pas oublier. Et je crois que tous, nous pouvons regarder en arrière et témoigner qu'il y a eu des jours particuliers dans nos vies. Et il y aura encore des jours particuliers. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Ça, c'est notre jour. C'est notre temps. Et nous devons racheter le temps. Car c'est un temps mauvais. Tout à l'heure, j'ai fait cette remarque avec Istanbul, avec l'attaque à la synagogue juive. Personne peut se représenter cela. Je pense seulement, nous sommes ici rassemblés et nous courbons nos têtes pour la prière et subitement, les gens rentrent dans la salle ici et jetteraient des grenades et tireraient sur nous et tout irait en flammes. Qui peut se représenter cela? Il y a pas long, dans les années passées, on a au moins eu du respect devant les institutions religieuses. On a, les gens savaient que ces gens n'ont pas à être touchés, mais aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Nous vivons à la fin du temps de la fin, des temps. Et nous espérons seulement que ce temps passera bientôt et que nous serons auprès du Seigneur. De manière étrange, c'est ainsi que quand quelque chose se passe avec les Juifs, alors cela nous touche plus que quand ça se passe avec les païens. Vous le savez, chaque enfant de Dieu le ressent ainsi. Chaque enfant de Dieu. Et si c'est ainsi, alors nous remercions Dieu pour cela. Car, en fait, les Juifs sont le peuple élu de Dieu. Dieu a retranché les branches naturelles pour que nous, qui venons des nations et qui étions des branches sauvages, nous soyons greffés sur le trône original. Et c'est peut-être raison, sur le trône original, c'est peut-être raison que nous devrions être encore plus reconnaissants à Dieu de ce que nous avons part, aux bénédictions, que nous avons reçu une part aux bénédictions divines. Et les autres choses qui se passent dans le domaine politique, nous ne voulons pas les mentionner, mais nous gardons les yeux ouverts et voyons comment est-ce que les Écritures s'accomplissent de toute manière, de toutes sortes de manières. Vous avez lu la dernière brochure sur l'Antichrist. Et j'écoutais hier, et tant que je peux me rappeler, moi-même je l'ai lu, comment est-ce que Gorbatchev veut faire des choses communes avec l'Union européenne? Ne vous trompez pas. Le moulin de Dieu broie lentement, mais très finement. Tout se soumet, tous retrouve sa place, l'Est et l'Ouest, ce sont deux pieds sur lesquels toute la chose se tient. Et alors que Khrushchev, autrefois, à New York, parlait à l'ONU, frère Branham déjà avait dit, ici, l'Est et l'Ouest se rencontrent. L'un représente l'Est, c'était Khrushchev autrefois, et l'autre représente l'Ouest, c'était autrefois Eisenhower. Et il a dit l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Nous sommes à la fin des temps et j'espère seulement que à la fin du temps, et j'espère seulement que nous aurons l'occasion, nous trouverons le temps pour exposer tel qui se passe et éclaircir ça à la lumière de la parole prophétique et exposer cela. Et c'est très important justement dans ce temps prophétique, dans cette âge prophétique dans lequel nous sommes, nous avons ce grand privilège, de ce grand avantage de ce que Dieu révélait. Nous pouvons puiser de ce que Dieu a révélé à Frère Branham. Et je l'avoue, il y a beaucoup de choses et beaucoup de contextes que je n'aurais pas su. Mais des prédications, on peut, n'est-ce pas, lire ces choses et s'informer et voir les contextes. J'espère que cela continuera. Comme ça, il y a beaucoup de commandes qui nous parviennent, et justement concernant cette brochure sur l'Antichrist que nous avons écrite. Et j'espère que personne n'a l'impression qu'il devrait faire attention parce que ça coûte de l'argent et éviter de la commander. Non, s'il vous plaît, donnez-vous à vous-même ce plaisir et laissez-vous placer là où vous êtes comme sentinelle. Parce que ça pourrait être que Dieu veut t'utiliser, m'utiliser, nous utiliser pour justement donner aux autres cette brochure. Donc n'ayez pas honte, n'hésitez pas à dépenser quelques centimes pour acheter des timbres pour envoyer ces brochures à ceux que vous connaissez. Si chacun envoie seulement 10 brochures, je ne veux pas dire distribuer dans la rue, mais les frères dans les différentes églises, qui sont restés dans les différentes églises, et les sœurs que nous portons dans nos cœurs, nous pouvons les servir et leur envoyer ces brochures. Et le Seigneur pourra leur parler. Nous ne pouvons pas simplement rester assis et puis garder tout pour nous. Et les choses sont trop précieuses pour que nous puissions les garder pour nous. Elles sont trop importantes. Elles doivent être partagées et envoyées partout. En fait, nous ne devrions rien laisser pour nous, conserver pour nous seuls. Ce que Dieu nous a confié, c'est aussi pour les autres, pas seulement pour nous. Au contraire, nous avons justement même pris la responsabilité de penser aux autres. Comment est-ce qu'ils devrions apprendre si ce n'est que nous leur faisons savoir ce que nous avons reçu et distribuons les brochures et envoyons les brochures aux autres. Et laissons-nous continuer ce que nous avons commencé hier. Je lis pour cela dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 10. Il s'agit pour nous, comme tout à l'heure, comme avant, des jours particuliers, aussi des expériences particulières, aussi du jour du Seigneur. Pour parler du jour du Seigneur, ici dans Apocalypse chapitre 1, au verset 10. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus ravi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix aussi forte qu'une trompette qui m'appela en disant: écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept églises. Et ensuite, les églises sont énumérées. Ici, pour moi, il s'agit de cette pensée que Jean était ravi par l'Esprit au jour du, ou bien alors dans le jour du Seigneur. Ravi dans ce qui s'est passé, de ce qui se passera au jour du Seigneur. Ravi dans cela. Si quelqu'un ici, dans une traduction, écrit dimanche en parenthèse, alors on peut seulement que remuer la tête, n'est-ce pas? Mais ces hommes-là n'ont pas pu savoir. Le temps n'était pas encore là pour comprendre cela, pour savoir cela. Jean n'a pas été ravi dans un dimanche, mais dans le jour du Seigneur, il lui a été montré les choses qui nous concernent aujourd'hui. Ce qui a été révélé autrefois par l'Esprit s'accomplit maintenant dans nos jours, dans notre temps. Et on doit toujours le dire en insistant. Et on peut même ajouter des versets bibliques là-dessus pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur. Il n'y a pas une seule écriture qui dirait que le jour du Seigneur serait le sabbat ou bien alors le dimanche. Non. Je vais vous lire au moins deux ou trois versets de l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. Ici, c'est le verset 6 et aussi le verset 9. Ésaïe chapitre 13, verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme le ravage d'un coup de vent du Tout-Puissant. Ensuite, le verset 9. Sachez bien que le jour de l'Éternel arrive, jour sans miséricorde, plein d'ardeur et de colère, pour réduire la terre en désolation et en exterminer les pécheurs qui l'habitent. Ensuite, ce jour est encore ici décrit et il est parlé de tout ce qui appartient à ce jour. Dans le prophète Ézéchiel, le chapitre 30, Ézéchiel, chapitre 30, ici il est écrit au verset 2, « Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle Dieu, l'Éternel, gémissez, oh quel jour !» Car proche est le jour, oui, proche est le jour du Seigneur. Un jour sombre et nuageux. Écoutez bien, ce sera le temps de la fin pour les nations païennes. Pour les nations païennes. Ça, c'est le jour du Seigneur. Pas un jour de 24 heures. Et ici, le prophète dit, oh, quel jour! Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Un jour particulier. Oh, quel jour! À la fin du verset 2. Car proche est le jour. Oui, proche est le jour du Seigneur. Un jour sombre et nuageux. Ensuite, suit cette phrase. Ce sera le temps de la fin pour les nations païennes. Ce jour sera la fin des nations païennes. Dieu achève son œuvre avec l'Église de parmi les nations et ensuite il apportera sa rétribution sur les nations. Et je voudrais maintenant vous montrer un paradoxe dans les Saintes Écritures. Je vais vous lire pour cela deux Écritures. Et celui qui peut saisir cela, qu'il puisse le saisir. Joël chapitre 3, verset 4. Joël chapitre 3, verset 4. En français, c'est le chapitre 2, verset 31. Frère Franck vient de le dire. En français, nous avons seulement quatre chapitres. Donc, en français, c'est chapitre 2, verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel qui est grand et terrible. Joël 2, verset 31. Maintenant, je vais vous lire ce que Pierre, sous la conduite du Saint-Esprit, a dit. Il a changé le mot terrible par glorieux. Il a remplacé le mot terrible par glorieux. Nous lisons pour cela dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ici, c'est le verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Vous savez que Pierre, ici, en tout, a lu du prophète Joël plusieurs écritures et cité plusieurs versets. Et ici, dans le verset 20, il cite justement le verset que nous venons de lire de Joël 2, verset 31. Actes apôtres 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Les critiques peuvent maintenant venir et demander, mais un moment. Là, c'est écrit comme ça, et ici, c'est écrit autrement. Alors, qu'est-ce qui est juste? Les deux sont justes. pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour l'épouse. Ce sera un jour glorieux. Un jour glorieux pour l'Église épouse, mais pour les autres, ce sera un jour terrible. Le même jour, Pierre, conduit par le Saint-Esprit, avait l'Église sous ses yeux. Il savait qu'un jour arrive, un jour glorieux pour les croyants, pour le peuple de Dieu. Et c'est les croyants qu'il avait sous les yeux alors qu'il parlait. Et il disait ici que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, et de ce gros Jean, de ce jour grand et glorieux. Qu'est-ce qui est écrit dans le prophète Malachie? La parole que nous avons souvent et toujours de nouveau observée avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, je vous enverrai le prophète Élie. Et ensuite, le destin du peuple de Dieu change. Tous ceux qui alors écoutent ce message, ce sera pour eux un jour glorieux. Un jour glorieux. Le jour que le Seigneur a fait. Avant que sa colère, avant que ses jugements viennent, tombent sur cette terre, sur ce monde, il tourne sa face vers son peuple. Par grâce et parle avec nous comme un père avec ses enfants. Parle avec ses enfants. Il nous révèle les mystères les plus profonds de la parole de Dieu qui sont restés cachés, qui étaient restés cachés. Donc les deux sont corrects, les deux sont justes. Je pourrais vous amener dans le prophète Ésaïe où la question est posée. Sentinelle, quelle heure il est dans la nuit? Ésaïe 21. Et la réponse ici, Ésaïe 21, verset 12, peut-être déjà la deuxième partie du verset 11 de Zéhir, on me crie. Ésaïe 21, la deuxième partie du verset 11 de Zéhir, on me crie. Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Il y a différentes traductions ici, il y en a qui disent, mais il fait encore nuit. Mais ici, la plus correcte, c'est le matin vient et la nuit aussi. Donc pour les uns, arrive le matin glorieux, et tel que nous chantons dans le cantique, matin glorieux quand Jésus viendra. Mais ce même matin-là est une nuit ténébreuse pour les autres. Les ténèbres tombent sur eux. Donc, les deux peuvent être. En même temps, le jour du Seigneur est pour nous un jour glorieux parce que nous écoutons ce qui est nécessaire pour échapper de tout ce qui viendra sur la surface de la terre et se tenir devant le Seigneur. Pour échapper, ça c'est notre jour, le jour du salut. Le Nouveau Testament, le Nouveau Testament parle du jour de Jésus-Christ. Du jour de Jésus-Christ. Un jour glorieux. Je voudrais encore vous lire encore un peu plus dans Hébreux, le chapitre 4. Nous avons hier, n'est-ce pas, lu la parole de Josué. Et ici, dans Hébreux chapitre 4, versets 7 et 8, il y a une parole très particulière, très particulière ici, qui se réfère au temps de Josué et aussi à notre temps. Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui, en disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué les avait vraiment introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas d'un autre jour plus tard. Ainsi, un repos sabbatique est encore réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Ici, l'apôtre expose qu'un nouveau jour a été fixé. Et ce jour nouveau est le jour du salut. Il a commencé avec la première venue de Christ et se terminera avec son retour. Nous lisons ici au verset 7 que Dieu fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui. Ensuite, verset 8, car si Jésus les avait vraiment introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas d'un autre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était des images, et dans le Nouveau Testament, nous avons affaire à la réalité. C'est pour cette raison qu'il est écrit ici que Dieu a parlé d'un jour plus tard. Et c'est dans ce jour que nous sommes introduits dans le repos de Dieu. Concernant ce jour, il en est parlé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons cette citation de l'Ancien Testament et je lis avec intention d'abord du Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 2. Car il est écrit, au temps favorable, je t'ai exaucé et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici, maintenant est le temps favorable, voici, maintenant est le jour du salut. Nous parlons, n'est-ce pas, de jours particuliers et d'événements particuliers et de ce qui a pour nous une signification particulière dans le dessein du salut. Et ici, l'apôtre parle du jour du salut, du temps favorable, de ce aujourd'hui que Dieu nous accorde pendant ce temps de la grâce. Comme nous l'avons lu dans Hébreux 4, il se réfère ici à Ésaïe 49. Nous connaissons toute cette parole, Ésaïe 49, et il nous laisse ici savoir dans Ésaïe que nous vivons dans ce temps maintenant. Ésaïe 49, ici, à partir du verset 8, il est écrit Ésaïe 49, verset 8. De plus, l'Éternel a parlé ainsi. Ésaïe 49, verset 8. Au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai gardé. Je t'ai fait une alliance du peuple pour restaurer le pays, pour partager de nouveau l'héritage des terres héréditaire désolé. Pour crier aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont assis dans les ténèbres, venez à la lumière. Même par les chemins, ils se nourriront. Et sur toutes les hauteurs dénudées, ils trouveront des pâturages pour eux. Ils n'auront ni faim, ni soif, ni le vent brûlant, ni la brûlure du soleil ne les frapperont, car leur Dieu bienfaisant les guidera et les fera reposer près de sources d'eau. La prophétie a parfois deux, trois sortes de significations pour l'Église et aussi pour Israël. Au commencement du Nouveau Testament, ça s'est accompli et ça peut de nouveau encore dans notre temps s'accomplir. Pour nous, il s'agit de ce mot. Ceci est le jour du salut. C'est notre jour, c'est notre aujourd'hui, et Dieu nous a laissé connaître la parole pour ce jour. Et je voudrais encore une fois répéter ce qui a été dit ici hier soir. Dieu ne va pas nous juger d'après ce qui a été prêché il y a 400 ou 800 ans. Le Seigneur s'est apparu ici comme juge, comme dans cette prédication. Nous l'avons lu hier, et celui qui n'était pas là hier peut le lire dans la prédication appelée « Le lever du soleil » du 18 avril 1965, tel que frère Branham, n'est-ce pas, décrit l'apparition du Seigneur dans la nuée. Il l'a décrit et nous la montre que là, le Seigneur s'est montré comme juge. Pourquoi comme juge? Le jugement commence dans la maison de Dieu. Pas la condamnation, pas la condamnation, mais la juridiction, la jurisprudence, la clarté devait être apportée à toutes les questions. Et cette clarté ne vient pas de nous, par une discussion, dans une discussion, ne peut pas être négociée par nous dans une discussion. La clarté ne peut que venir de celui qui a révélé sa parole. Je le dis dans toute la clarté. Nous qui écoutons la parole de Dieu dans ces jours et qui avons le privilège d'écouter le dernier message, nous serons jugés d'après ce qui a été prêché après l'ouverture des sceaux. Personne, il n'existera aucun qui pourra subsister, qui aurait été contre ce qui a été prêché après l'ouverture des sceaux et pouvoir encore se tenir devant Dieu. Pas un seul. Le Seigneur ne se laisse pas moquer. Et quand il parle, ce qu'il disait est contraignant pour tout ce qui veut subsister devant lui. Quand un procès verbal commence à lieu, le moment alors arrive dans le procès verbal où personne ne peut apporter quelque chose, où le juge a le dernier mot. Et alors la chose est conclue. Le juge, qui en même temps est sauveur, et rédempteur. Dans le dernier message, il a par ce message eu le dernier mot pour son église. Et alors là, c'est fini. On n'a plus besoin de tête pour discuter. On a besoin de personne qui voudrait encore donner des cours particuliers à qui que ce soit. Parce que l'homme de Dieu aurait oublié des versets d'oubli qui appartiendraient au sujet. Non. On a seulement besoin d'hommes qui ont compris que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais que c'est Dieu qui a parlé par des lèvres humaines, et cela de manière finale et contraignante. Et celui qui ne veut pas admettre cela, ça veut dire qu'il n'est pas encore là où il doit être. Malheureusement, il y en a beaucoup de cette sorte, mais nous ne sommes pas aussi entièrement là où nous devrions être, ça nous le reconnaissons. Mais nous appartenons aussi à ceux qui, c'est vrai, ont des difficultés ici et là, mais nous disons malgré tout oui à chaque parole de Dieu, même si nous ne la comprenons pas, n'est-ce pas? Nous disons oui à chaque parole de Dieu, même si nous ne la comprenons pas peut-être au moment. Je lis de cette prédication, et encore plus loin à la deuxième page, pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer ce qui compte, ce qui est important. Je commence avec ce paragraphe. Si vous tournez la photo ainsi, si vous retournez l'image, la photo comme cela, et la regardez, vous pouvez voir Christ, probablement même de là dans l'auditoire. Voyez-vous, c'est Christ. Voyez-vous, ses yeux regardent là. C'est aussi parfait que possible que ça pourrait l'être. Il porte les cheveux blancs de la plus haute divinité et le juge de tous les cieux et de la terre. Voyez-vous, ses yeux, son nez et sa bouche. Alors retournez la photo de la position où vous l'avez, de la position telle qu'elle devrait être. Voyez-vous, voilà comment il devrait, comment la photo devrait être. Pouvez-vous le voir? Il est le plus haut juge. Il n'y a personne d'autre que lui. Et c'est encore une fois un parfait accord et une affirmation que ce message est la vérité. Une confirmation que ce message est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité et montre qu'il n'est pas une troisième personne, mais la seule personne de la divinité dans la, donc enveloppée de blanc, dans la couverture blanche. Vous pouvez voir son visage, sa barbe, ses yeux, comme des endroits plus sombres. Remarquez son regard. De lui, la lumière, donc, comme venant du ciel, de lui, la lumière brille sur le côté droit, où il regarde. À la croix, aussi, il a regardé à droite, à sa droite, à son côté droit, et a fait grâce aux pécheurs. À la lumière, dans la lumière de sa résurrection, nous voulons, en son nom, aller de l'avant. Ici, je voudrais souligner, frère Branham dit, là où le Seigneur regardait, c'est là que la lumière a brillé. Si Dieu, à toi et à moi, tourne son regard et regarde vers nous. Alors, on ne peut pas rester dans les ténèbres. Ça ne peut pas rester sombre. Alors, la lumière vient, la clarté vient. La clarté nous est accordée, la lumière nous est accordée, la clarté, la vérité, la révélation nous est accordée et nous pouvons nous soumettre sous la main puissante de Dieu. Alors, il y a encore le pardon. Dans ce contexte-là, il dit ici, le Seigneur regardait à sa droite pour pardonner le pécheur, à la croix, à qui il disait, en vérité, je te le dis, aujourd'hui encore, tu seras avec moi au paradis. Le Seigneur nous a vus dans sa grâce, nous a tourné le regard dans sa grâce, et parce qu'il nous a vus dans sa grâce, nous a regardé par sa grâce, sa lumière, la lumière de la parole révélée est tombée sur nous, a brillé sur nous. Maintenant, dans cette lumière, nous avons à marcher. Regardez, écoutez ce qu'il dit ici, cette formule, me plaît ici très bien, à laquelle nous voulons encore parler, de laquelle nous voulons parler ici encore. J'aimerais avoir tout le temps ce matin pour m'attarder sur ces apparitions extraordinaires qui ne font aucun doute. Ils se sont avérés vrais dans cette église au cours des 30 ou 35 dernières années depuis que la même lumière est descendue près de la rivière à Jeffersonville en 1933. Est descendu près de la rivière à Jeffersonville en 1933 et que ses paroles ont retenti de cette lumière. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, ton message précédera la seconde venue de Christ. Ici, il n'est plus parlé de Frère Branham, mais seulement du message. Le message. Je répète encore une fois. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, donc avant la première venue du Christ, ton message sera précurseur du retour de Christ, précédera le retour de Christ. Amen. C'est ainsi que c'est vrai. Et c'est ainsi que cela arrive. Dieu a repris le messager. Mais le message nous est resté. Et ce message précède le retour de Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quelle signification cela a? Seulement une propagande? Seulement une nouvelle religion quelconque? Un nouveau enseignement? Non! Et encore une fois, non! Le message qui est venu de Dieu doit nous ramener à Dieu. Est-ce que doit nous ramener à un accord total avec la parole de Dieu pour que l'époux et l'épouse vraiment en esprit soient unis, déjà unis ici sur terre, soient unis en esprit pour que dans l'esprit pour que l'époux puisse faire la dernière chose et conduire l'épouse à la perfection. Cela sera ce jour glorieux, ce jour dans lequel le Seigneur se manifestera encore une fois parmi son peuple. Directement après, frère Branham dit, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Ça, c'était en 1965 qu'il a dit, qu'est-ce que nous devrions dire aujourd'hui en 1986? Nous pouvons dire, nous sommes à la fin de la fin des temps. Mais le message, maintenant, comme lors de la première venue de Christ, à accomplir un haut objectif. Jean, autrefois, a parlé déjà aussi de l'époux et de l'épouse. Il a conduit au Seigneur un peuple bien disposé. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Maintenant, l'épouse doit être préparée à rencontrer l'époux quand il reviendra, à pouvoir le rencontrer dans les airs. Pour cela, c'est pour cette raison que le message a été envoyé. Frère Branham dit ici, la même lumière qui est descendue près de la rivière à Jacksonville en 1933 est descendue et a donné cette confirmation. Je ne sais pas si frère Kupfer, tu pourras comme ça ouvrir ça rapidement. Ici, c'est à la page 6, à la page 6. Frère Branham parle un peu de la puissance de Dieu qui, par la résurrection de Jésus-Christ, a été manifestée. Et il se réfère à tous ceux qui appartiennent à Christ. Et il inclut tous ceux qui appartiennent à Christ à cela. Et ça me réjouit. Nous avons tous part à ce que s'est passé en Christ et par Christ, en sa mort, en sa résurrection. Nous avons part à tout. Nous sommes semblables à sa mort. Nous sommes crucifiés avec Christ, morts avec Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Ici, frère Branham dit, à la page 6 en bas, dans cette prédication, ensuite il dit, alors que ce matin-là, il était ressuscité. Il a dit, je vis et vous vivrez aussi. Pas lui seul. Il n'est pas seul à devenir participant de la résurrection, mais toute la semence qui se reposait dans la présence de Dieu est devenue participante à la résurrection et à la vie. Parce qu'il disait, je vis et vous vivrez aussi. C'est ainsi que c'était. Pas seulement lui, comme le grain de blé original, mais toute la récolte de blé, pas seulement lui, en tant que rédempteur, mais nous, comme rachetés, nous avons part. Nous sommes du même matériel. De quoi se compose une récolte de blé? De la même graine qui a été semée dans le sol, n'est-ce pas? Au moment de la récolte, la composition de ce qui se trouve dans les épis et qui est récolté est à 100% la même que le blé qui a été semé, oui. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui doit se passer lors de la résurrection? Exactement comme celle du Rédempteur. C'est ainsi que tous les rachetés seront. Ils seront semblables à lui. Cela pourrait nous paraître trop haut, n'est-ce pas? Mais ça, c'est justement la haute vocation qui nous a été adressée. C'est pour cette raison que Jean dit, il n'a pas été encore manifesté ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. La même parole, le même esprit, la même vie, telle que lui comme fils de Dieu. Ici, dans la chair, il a été manifesté. C'est ainsi que nous aussi, comme fils et filles de Dieu, de ce corps de chair, nous serons sortis, nous serons pris et nous serons changés en un corps de résurrection et sans même à lui en ce jour, car nous le verrons tel qu'il est et nous lui serons semblables. Comme déjà remarqué, cela est peut-être difficile pour nous de le saisir comme ça, mais et malgré tout, c'est vrai. Comme en Adam, tous meurent, c'est ainsi qu'en Christ, tous reviennent à la vie. Il était le premier-né, nous sommes les premiers-nés. À la page 8, dans cette prédication, à la page 8, il est écrit ici, au milieu d'un paragraphe, frère, coupe-fa. Mais jamais il y a eu une nouvelle comme ce message que celui qui avait fait cette promesse, il l'a confirmé aussi que il vit éternellement et qu'il a les clés des deux, de la mort et de l'enfer entre ses mains. Les deux se sont accomplis. D'abord, la promesse, mort, je te serai une pestilence. Nous pouvons tous lire cela dans l'Ancien Testament. D'abord, c'était une promesse. Et ensuite, cette promesse est devenue une réalité. D'abord, il était écrit, je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Et ensuite, cela s'est accompli. Il est ressuscité sans voir la corruption. Toujours. D'abord vient la promesse. Et ensuite vient son accomplissement. Dans le dernier paragraphe, presque au milieu, il est écrit, « Ô Dieu, comment est-ce que dans ces derniers jours, de nouveau, une lumière viendra sur ce monde et je le prouverai à mes disciples. Allez et dites-leur que je ne suis pas mort et que je ne suis pas une tradition, mais je suis un Christ vivant. Je les rencontrerai. Portez ce message, apportez ce message à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Celui qui de toutes les religions et toutes ces églises dites chrétiennes dans cette génération ont la preuve du Dieu vivant parmi eux. Où est-ce que le Seigneur de manière surnaturelle s'est révélé? Cela devrait nous rendre humble et en même temps reconnaissant de ce que parmi des milliards de personnes, nous avons été choisis pour dans ces jours entendre parler de ce que le Seigneur vit et qu'il se révèle, il se manifeste et qu'il parle et qu'il accomplit dans notre temps les promesses données sur Christ. Beaucoup peuvent parler. Interpréter sa parole, ce n'est pas aussi difficile pour beaucoup. Mais où existe un homme qui peut dire, le 11 juin 1933, vers 14 heures, cela s'est accompli, cela a eu lieu, quel jour? Où est-ce qu'il y a un homme qui peut se référer au 10 janvier 1950 et dire là-bas, à Houston, Texas, alors que des incroyants croyants l'ont méprisé, se sont moqués de lui et que la presse a écrit sur lui. Et on a tenu son poing devant le visage du frère Boswald. Et frère Branham est venu sur le podium et a dit, le même Dieu qui m'a envoyé me défendra et rendra témoignage lui-même. Et les caméramens ont pris des photos. Et toutes les photos n'ont pas réussi, jusqu'à qu'une seule. La photo avec le poing sur le poing, devant le visage, n'a pas réussi. Toutes les autres photos n'ont pas réussi. Seulement cette seule et unique photo, le 10 janvier 1950, à Houston, Texas, a pu être développée dans cette grande salle où plus de 16 000 personnes étaient rassemblées. Moi-même, j'étais à Washington. Et j'ai vu cette photo comme Frère Branham le disait, je l'ai retrouvée là-bas à Washington, DC. Une photo surnaturelle. La lumière n'était pas là. Après minuit, ils ont réveillé cet homme. Dans stupéfait, ils lui ont demandé, mais est-ce que vous savez que sur votre tête, quelque chose de surnaturel était ou bien est? Et il a dit, mais je le sais. Et dès aujourd'hui, vous le savez aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais des hommes qui ont vu cela, aussi ces gens, ces hommes, par exemple, Dr. James McDonald, qui avait à répondre à cette photo. Il s'est suicidé après. Il a été confronté à ça. Il a dit, mais c'est pas possible que quelque chose de surnaturel existe. C'est pas possible. Et subitement, il est entré dans un désespoir. Dans un désespoir. Ne vous trompez pas, Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Il y a eu des jours dans notre génération qui ont fait l'histoire, des jours qui sont entrés dans l'histoire, qui appartiennent à l'histoire du salut. Et quand le Seigneur, tel qu'il a appelé à Moïse, d'une manière, et il lui a apparu d'une manière surnaturelle et insolente, est-ce qu'il ne peut pas aujourd'hui apparaître et se révéler, se manifester? C'est ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il ne peut pas parler aujourd'hui? Est-ce qu'il ne peut pas agir aujourd'hui? Il est le même. Mais nous devons croire. Nous pouvons dire, quel jour? Le 11 juin 1933. Quel jour? Le 10 janvier 1950. Quel jour? Le 28 février 1963. Des jours particuliers dans la vie d'un homme de Dieu. Pour quelle raison? Pour que nous puissions accrocher des photos sur nos murs, pour que nous puissions rendre un culte à un homme ou bien lui apporter l'honneur? Sûrement pas. Mais pour que nous puissions comprendre que Dieu le Seigneur est en train de faire la fin de l'histoire du salut et a accompli les promesses et les a mis en lumière dans notre génération et les a révélés à son peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Je suis reconnaissant à Dieu. Parfois même pour les attaques de l'ennemi. Je souris maintenant. Car je sais que si je ne portais pas la parole véritable de Dieu, l'ennemi m'accompagnerait avec une chorale de trompettes, une fanfare qui dirigerait lui-même pour, n'est-ce pas, me préparer pour la bonne réception. J'ai pas besoin de fanfare, mais je veux que les trompettes de Dieu donne un son clair. Paul écrit que si les trompettes donnent un son qui n'est pas clair, qui pourrait savoir de quoi il s'agit et qui pourrait combattre? Pas, plus de sons qui ne sont pas clairs, plus d'inclarté, plus de ceux qui ne sont pas clairs. Dieu s'est révélé lui-même, s'est manifesté lui-même, nous savons qui il est. Et nous sommes aussi reconnaissants de ce qu'il s'est révélé. Je pense parfois à notre Seigneur qui a, on lui a craché dessus. On a fait de lui tout ce qu'on ne ferait à aucun homme, qu'on n'aurait jamais fait à un autre homme sur cette terre. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait à qui? Il s'est rendu coupable de quoi? Rien. Mais il a marché son chemin. Il y a notre bien-aimé qui disait hier, alors que je mentionnais quelque chose, que j'ai à suivre les traces de Jésus, n'est-ce pas? C'est ce qu'une soeur me disait. Et c'est ainsi aussi. On doit pouvoir porter les deux. L'opprobre, mais aussi peut-être une louange. Ça, j'en ai pas besoin. Ça pourrait que me nuire. Mais tout le reste ne peut pas me nuire. Seulement, si comme ça s'est passé pour moi maintenant en haut, dans la Prusse orientale d'origine, et à Allenstein, là-bas où il y a beaucoup de lacs, on me dit, frère Franck, il y a des frères qui vous ont visité là-bas à Krefeld et ensuite ils sont revenus et tout ce qui a été raconté, on ne peut pas le croire. Jusqu'à qu'un frère disait, alors qu'il entendait que frère Franck vient, il a dit mot à mot, je me réjouis de ce que frère Franck vient, car je pourrais enfin lui cracher au visage. Mais ces gens qui étaient ici dans cette ville en visite à Krefeld sont pas venus au centre missionnaire, sont pas rentrés ici dans la salle. Ils m'ont pas rencontré, ils n'ont pas parlé avec moi, pas un mot. Et que vous pouvez vous imaginer, ensuite, attendre l'enlèvement et tout le reste. Non, mon Dieu, quand le Seigneur accordera sa grâce très bientôt pour que tous reviennent, ça peut arriver qu'il y aura des gens pour qui il sera plus possible qu'ils reviennent au Seigneur, à sa parole. Il y a une limite qu'on ne peut pas transgresser, qu'on ne peut pas dépasser. Pour moi, je suis encore un homme, c'est difficile pour moi de voir tout ça, mais la douleur dans mon âme est à cause de ces hommes. À cause de ces hommes qui ne peuvent rien faire d'autre. Ils ne contrôlent pas la situation et encore moins, ils n'en peuvent rien. Peut-être qu'ils en peuvent quelque chose. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais ça va ensemble. Paul dit, au milieu de l'honneur et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Ça, nous devons supporter cela. Et vous imaginez que je suis reconnaissant pour vous tous qui venez à un tel imposteur et séducteur, n'est-ce pas, pour écouter la parole de Dieu de sa bouche. Il n'y a rien sur terre qu'on ne m'aurait pas reproché. Et seulement pour un seul objectif, à cause de la pour nuire à l'autorité divine de la parole de Dieu et du service divin, pour que tous les autres puissent faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent. Tant que Dieu vit, et aussi vrai que je vis, et aussi vrai que Dieu vit, je resterai attaché à cette parole, à la parole de Dieu. Même si je dois passer par des épreuves difficiles, et même si parfois j'ai besoin de consolation, mais je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui sont prêts à porter avec moi l'opprobre à cause de la sainte parole de Dieu que nous avons écoutée et que nous avons reçue. Vous ne seriez même pas ici aujourd'hui si vous ne porteriez pas l'opprobre avec moi. Que Dieu vous bénisse pour cela. Le Seigneur disait, si si nous souffrons avec lui ici, nous régnerons avec lui là-bas. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais notre prière est que d'autres soient appelés à sortir. Et j'appelle cela de ce cercle magique qu'ils soient appelés à sortir. Les gens sont comme ensorcelés, ils ne peuvent pas s'aider. Et Paul pouvait dire aux Galatiens, vous avez eu un bon commencement, qui vous a ensorcelé? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Vous êtes dépourvus de sens. Et nous aussi, nous pouvons dire la même chose. Et même, supposons que je serais un imposteur et que j'aurais commis un acte qui ne pourrait pas subsister devant Dieu. Est-ce que cela justifierait ce qui est entrepris dans le monde entier contre moi pour nuire à l'œuvre de Dieu, en fait? C'est tout. Est-ce que ce n'est pas semblable comme un commando de suicide? Et même si on s'explose et on s'injecte dans l'air, ce qui est important pour ce qu'il y ait une explosion, est-ce qu'il y a des dégâts? Et même si soi-même, on se nuit, n'est-ce pas? Non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous en voulons à personne. Je ne me comprends pas moi-même parfois. Mais je peux dire que Dieu, dans mon cœur, a déversé son amour, a mis son amour. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un, mais j'ai une tristesse profonde dans mon cœur. Quand je pense à des hommes qui ont pris la coupe du salut, l'ont bu et ont écouté la parole de la vérité et ont goûté aux puissances du monde à venir et ensuite se détournent, comme c'est écrit dans Hébreux 6, et marchent dans leur propre voie, dans leur propre pensée. Et pas seulement ça, mais mettent tous leurs efforts pour détruire, Tel que le Seigneur l'a dit, c'est ainsi que cela va s'accomplir. Le message qu'il a donné sera précurseur de son retour, précédera son retour, et tous ceux qui appartiennent à l'épouse vont prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église, vont écouter. L'Esprit de Dieu ne parle pas par tous ces séducteurs remplis de haine. Non, l'Esprit de Dieu parle par la parole de Dieu, tel que ça a toujours été. Mais parce que nous nous tenons pour la vérité, nous devons à cause de la vérité souffrir la persécution et aussi supporter toutes ces choses. Et nous le faisons, je peux le dire, à cause du Seigneur, même si parfois c'est difficile. Nous le faisons. Et nous prions pour nos ennemis. Est-ce que vous pouvez le faire? Nous pouvons le faire? C'est important. Ça, c'est très, très important. Je ne vais pas oublier ce jour. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je viens à parler de cela, mais nous sommes ici parmi nous aujourd'hui. Mais je ne vais pas oublier ce jour, alors que j'avais lu cette brochure impure appelée l'acte de la moissonneuse boiteuse de 40 pages. Quand j'ai reçu cette brochure, que j'ai lue, oh mon Dieu au ciel. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'ai dit ici. Et pendant que j'étais à genoux, cela a commencé à parler en moi. Qu'il y a un péché. À ceux qui vous pardonnent, à ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je me suis terrifié d'entendre cela. Je voulais continuer à prier. J'ai dit, mais Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors que ensuite la pensée a suivi. Il y a des hommes qui savent ce qu'ils font. Parce qu'ils le font volontairement. Volontairement. Il est écrit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais où est-ce qu'il est écrit? Pardonne-les, car ils savent ce qu'ils font. Non, ça c'est une grande différence éloignée du ciel et de la terre. Si nous péchons volontairement, si nous voulons volontairement nuire à quelqu'un, détruire quelqu'un, que Dieu puisse aussi être juge de cela. Mais il rendra justice. Il ne va pas tolérer les choses, non. Il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de l'œuvre de Dieu contre laquelle Satan est en colère. Et s'il peut nuire et détruire celui ou ceux qui sont une partie de cette œuvre et qui ont une responsabilité, Et s'il les a détruits, alors il peut faire ce qu'il veut parmi le peuple de Dieu. Il garde le peuple de Dieu. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que le peuple, pourquoi est-ce que les prophètes et les apôtres ont été lapidés, tués et persécutés? Pourquoi? Parce que c'était des meurtriers, des imposteurs, ou bien parce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Non, c'est seulement parce qu'ils ont porté la sainte et précieuse parole de Dieu. Il s'agit de la parole. Et ceux qui ont porté la parole de Dieu, on les a persécutés et lapidés. Est-ce que je devrais me laisser insérer à leur trace? Oui, Dieu a conduit les choses ainsi et les choses resteront ainsi jusqu'à la fin. Je ne m'attends pas à une amélioration, bien au contraire, je m'attends à une aggravation. D'un autre côté, mais d'une amélioration vraiment d'un autre côté. Car le peuple de Dieu sera toujours plus uni. Nous allons mettre de côté toutes les bêtises qui existent encore entre nous et qui peuvent surgir rapidement pour assombrir un peu une chose ou pour qu'elle ne se déroule pas comme elle le devrait. Parfois, il peut s'agir juste d'un mot, d'une remarque, et tout est déjà attristé. Dieu va nous aider aussi là à veiller à cela et à seulement dire ce qui sert à l'édification mutuelle et ne parler de personne. Et si nous le faisons, alors nous devons seulement dire du bien pour que Dieu puisse bénir et qu'il puisse Dieu avoir son chemin parmi nous et que personne ait quelque chose contre un autre. Sinon, nous attendons en vain le retour du Seigneur. Car Dieu veut se révéler. Il veut se manifester. Nous attendrons en vain cela si nous sommes encore en train d'avoir des choses les uns contre les autres. Il veut accomplir sa parole et se manifester parmi nous. Mais il est important que nous puissions nous mettre de cette manière à sa disposition et que nous puissions le croire et être en accord total avec sa parole. Nous laisser apporter en accord total avec sa parole. La chose difficile sera ce que frère Branham ici directement a dit au commencement. Directement à la deuxième page dans cette prédication. Il dit ici, et nous qui avons comparaison avec le monde entier, et nous qui sommes un petit groupe humble comparé au monde entier, nous avons apprécié ces bénédictions et appris et écoutons ces mystères sur le mariage, divorce, la semence du serpent, toutes les diverses questions. Nous avons été pleinement révélés. Dieu n'a pas seulement révélé les sept sceaux, il a révélé toutes les choses qui n'étaient pas claires. Il a révélé la parole de Dieu, il a donné la réponse sur chaque sujet et cela reste contraignant pour tous ceux qui reste dans sa parole, qui demeure dans sa parole. Que le Seigneur vraiment puisse nous accorder sa grâce et nous aider. Que une fois pour toutes, nous puissions comprendre que ce n'est pas un homme qui a ici fait connaître ses opinions, mais c'est le Seigneur qui, comme juge, a parlé. Et si je mentionne cela, je ne vais pas parler du dernier jugement, ça vous le savez très exactement. Je parle seulement ici de ce que il nous jugera d'après ce que nous avons entendu de sa bouche. Et c'est pour cette raison que nous avons à nous soumettre à sa parole qu'il a prononcée. Même frère Branham dit ici que depuis ce temps, il a reçu lui-même des choses révélées, des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Elles lui ont été révélées. Que nous puissions donner toute l'honneur à Dieu, car c'est notre jour, le jour qu'il a déterminé pour faire grâce à son peuple. Il a parlé avec nous et il nous a ouvert l'intelligence pour ce qu'il disait. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Amen. Levons-nous pour la prière. La réconciliation et le pardon est encore sur le trône de la grâce. Et nous te remercions pour la purification par le sang de l'agneau, pour la rédemption et pour le pardon. Nous te remercions pour ta parole révélée et nous prenons un bain en elle et sommes purifiés et lavés de toutes les souillures spirituelles comme c'est écrit de toutes les impuretés, nous sommes lavés dans le bain de la parole. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous as regardé dans ta grâce. Tu nous as secourus au jour, dans le jour du salut, dans le temps de la grâce. Pour nous, c'est un jour glorieux, pas un jour terrible, un jour glorieux. Oh Seigneur fidèle, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous voulons tomber sur nos faces comme les 24 vieillards ou anciens, alors que tu pris le livre au toit, agneau de Dieu, pour ouvrir les sceaux, pour ouvrir, pour révéler, pour manifester ce qui était écrit. Il n'y avait plus de discussion, c'était que l'adoration après l'ouverture des sceaux. Plus de discussion, mais l'adoration. Oh Seigneur, que ta crainte revienne parmi ton peuple, devant toi, pour ta parole, pour ce que tu as dit, pour tes décisions, pour ton dernier mot. Par ce message de la fin des temps, nous avons la grâce de vivre dans les derniers jours. C'était des jours merveilleux, particulièrement des jours particuliers dans cette génération. Des jours qui resteront pour nous inoubliables. Des jours que tu as fait toi-même. Et ce souvenir que, Seigneur, tu conserves parmi ton peuple pour ce que tu as fait. Ce jour était aussi le jour de la crucifixion. Un jour, auquel jour fut le jour de la crucifixion, le jour de la résurrection. Et quand le jour de la Pentecôte vint, oh, quel jour ça a été. Alléluia. Oh, Seigneur fidèle, il y a eu des jours glorieux, merveilleux, pendant le jour du salut. Oh Seigneur notre Dieu, aussi dans notre génération, aussi dans ma vie, il y a eu des jours que je peux oublier, que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas oublier. Seigneur, je te remercie et je te loue. Je loue ton saint nom. Oh Seigneur, nous te demandons ensemble, accorde-nous ta grâce, que nous puissions entrer dans ton repos. Pour que tu puisses achever ton œuvre. Josué n'a pas pu introduire ton peuple dans le repos, mais toi, tu nous as introduits dans ton repos. Car il y a encore un repos présent pour le peuple de Dieu. Seigneur, nous voulons, avec toi et avec ta parole, devenir un. Ça, c'est mon souhait. Je ne voudrais pas, dans un seul point, être à côté de ta parole, me tenir à côté de ta parole et marcher à côté de ta parole. Je voudrais être en accord avec chaque parole, en accord, en conformité avec chaque parole. Je voudrais voir chaque promesse accomplie. Oh Seigneur, fidèle, tu es le Dieu vivant. Tu pourrais te manifester de manière en forme visible, mais tu t'es révélé à nous dans ta parole, dans ton esprit, et nous le savons, Seigneur. Nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté. Tu es un Dieu personnel. Tu as parlé personnellement avec nous. Alléluia. À ton merveilleux nom et glorieux nom. Seigneur, nous te demandons, ne nous laisse pas attendre encore longtemps, que tu puisses te lever pour achever ton œuvre comme dans les jours de Josué. Seigneur, où tu as donné les ennemis aux mains de ton peuple et tu as accompli tes promesses dans le pays de la promesse. Conduis-nous dans le pays de la promesse entièrement à y entrer, en passant par le Jourdain, en passant par la mort de notre propre moi, notre propre nature, que nous soyons ensevelis avec toi, pour que nous puissions, étant morts, crucifiés avec toi, entrer dans le pays de la promesse et vivre les promesses de Dieu accomplies. Oh Seigneur, comme c'est merveilleux. Un tel jour, comme autrefois, il n'a jamais existé avant. Et depuis lors, mais un jour arrive, un jour plus grand, plus glorieux, nous l'attendons directement avant ton retour. Seigneur, un temps court dans lequel tu feras une œuvre puissante. Si on entendait parler, personne ne pourrait la croire. Mais c'est ainsi que c'est écrit, mais on n'en parlera plus. Elle aura lieu, elle va s'accomplir et nous en prendrons simplement part. Alléluia! Loué et exalté soit ton nom. Oh Seigneur, que je puisse répondre devant toi à cette haute vocation et distribuer à ton peuple la nourriture, la parole révélée pour ce temps. Oh Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ajouter beaucoup à ton peuple comme notre frère l'a vu et que nous soyons ceux-là que tu utilises pour appeler à sortir et que tu puisses leur parler. Que la salle céleste soit pleine et elle sera pleine. Je te demande que tous puissent venir et remplir la salle. Que nos frères de Bruxelles, de Liège aussi, notre frère Jean, ils sont et partout d'où ils sont. Toutes les maisons, toutes les âmes, que ce soit à Geislingen ou que ce soit, bien-aimé Seigneur, que tu puisses encore une fois, dans ce pays et dans tous les pays, que tu puisses remplir les cœurs de tes enfants, de ta puissance, de ta parole, de ta bénédiction, que tu puisses remplir les maisons de ceux qui doivent être sauvés pour qu'ils soient nourris. Du pain de la vie, nous te remercions. Remplis ton peuple, que les salles soient pleines de tes enfants. Tu es un Dieu vivant, un Seigneur ressuscité. Tu parles et tu agis encore aujourd'hui. Adoration et honneur soit à ton merveilleux nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que tout le peuple dise Alléluia. 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 Ceci est notre jour. Nous voulons être heureux et reconnaissants et donner l'honneur à Dieu. Car il a parlé. Qui ne devrait pas craindre. Alléluia. Honneur et gloire et adoration soit à l'agneau qui s'est laissé immoler et qui a ouvert les seaux. Loué soit le Seigneur qui parle avec nous. Loué soit le Dieu vivant qui, comme le Dieu vivant, s'est prouvé et accorde sa clarté. Loué sois-tu, Seigneur, pour ce jour, aussi pour ce jour, pour ton peuple et pour ce que tu fais. Alléluia! Gloire, honneur et adoration à ton merveilleux nom et à ton saint nom. Que ton peuple se réjouisse, le peuple de Dieu qui se réjouisse. Alléluia. Honneur soit au Seigneur. Honneur soit à Dieu. Dans les cieux. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Seigneur Dieu, que dans les cœurs de ton peuple, il y ait la reconnaissance. Jaillisse la louange et la reconnaissance. Car tu as fait de grandes choses en nous. Nous sommes le troupeau de ta main, que ta main conduit. Nous écoutons ta voix. Alléluia. La voix de ta parole révélée. Seigneur, tu es grand et tes œuvres sont grandes. Toi, roi des peuples. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, aussi, nous te remercions de ce que ici, en cet endroit, nous pouvons être libres et nous réunir sans être dérangés. Nous pouvons encore crier de joie, exalter, tressaillir de joie, louer, exalter, croire et t'apporter l'adoration. Alléluia. Et t'expérimenter. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Remercié sois-tu. Oh Jésus. Seigneur fidèle, manifeste à chaque frère et à chaque sœur quelle signification a la révélation de ta parole pour nous dans ce temps maintenant. Oh Seigneur, mon Seigneur, vois ton peuple dans ta grâce. Bénis, Seigneur, ton héritage. Pardonne, pardonne, pardonne toute notre incrédulité, toute la dureté de notre cœur. Pardonne-nous, fais grâce et bénis-nous. Oh, nous te louons et nous t'exaltons dans le jour du salut. Tu nous as secourus. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh Jésus.